Je voudrais terminer en somme. Nous avons entamé nos études d'histoire des dogmes par celle d'un sujet stratégiquement très important, celui de l'autorité doctrinale dans l'Église. Comment détermine-t-on ce qu'il convient de croire? Nous avons pris le sujet en commençant dès le temps de l'Église apostolique. Nous avons fait un survol des données du Nouveau Testament lui-même à cet égard. Puis, nous avons considéré l'Église la plus ancienne. La dernière fois, c'est l'adolescence de l'Église, au cours de la deuxième moitié du second siècle, le début du troisième siècle, que nous avons surtout considéré. Nous avons vu que le fait majeur, sans doute, c'était la référence aux apôtres. Ce sont les apôtres que Jésus-Christ a constitués avec lui comme le fondement sur lequel l'Église doit s'édifier. C'est le dépôt, la tradition apostolique au sens de ce qui doit être transmis et qui est fixé dans l'Écriture, qui est la référence, la norme pour la foi et la pratique des chrétiens. Les hommes du second siècle en ont été particulièrement conscients à cause de la grande menace que faisait peser sur le christianisme le mouvement gnostique et à un moindre degré aussi l'effervescence montaniste. Ils ont bien délimité le canon des Écritures. Ils ont très nettement affirmé que c'est son origine apostolique qui lui confère l'autorité doctrinale infaillible sur l'Église. Mais nous avons vu qu'en même temps, les hommes du second siècle, pressés par la nécessité, engagés dans le combat que je viens de vous dire, ont tendu à ajouter à l'autorité de l'Écriture, en pratique au moins, des autorités subordonnées, mais malgré tout efficaces. D'une part, ils ont formulé une sorte de résumé, qui est devenu le symbole des apôtres, le credo, comme une sorte de règle de foi abrégée, pour bien discerner les croyants orthodoxes de saine doctrine des hérétiques. Et d'autre part, ils ont tendu à marquer de plus en plus nettement l'importance de l'autorité des évêques pour l'interprétation de l'Écriture et de la continuité de la chaîne des évêques successifs dans les grandes églises fondées par les apôtres. Du fait que les hérétiques prétendaient avoir des révélations secrètes venant des apôtres, les défenseurs de la saine doctrine, et en particulier saint Irénée, qui est le plus représentatif, sans doute, le plus prudent et sobre dans le groupe des grands conducteurs de l'Église à cette époque, saint Irénée a souligné que pour savoir ce que les apôtres avaient enseigné, il n'y avait pas de meilleur moyen que d'aller consulter les églises qu'ils avaient fondées, où les évêques s'étaient succédés depuis leur temps de façon continue. De ce fait, la référence à l'Église et à une certaine norme quant au dépôt apostolique, cette référence à l'Église s'est surajoutée à la simple référence à l'Écriture, avec parfois un accent assez mordant. Là où est l'Église, là est l'Esprit du Seigneur. On comprend très bien comment, contre les hérétiques, un homme comme saint Irénée a pu dire cela, mais nous avons déjà perçu que ce n'était pas sans danger. Et nous avons aussi observé que l'Église de Rome, de manière extrêmement progressive, s'est acquis, dans le même temps, une autorité de plus en plus nette sur les autres Églises. Et nous en étions un petit peu restés à ce point, dans l'exposé la dernière fois. J'ai noté que je dois aujourd'hui commencer par une explication de cette ascension du pouvoir de Rome, de l'Église de Rome et de son évêque, à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle. La chose s'est faite, je le rappelle, très graduellement. On en voit le début au deuxième siècle, mais ce n'est pas avant le Moyen-Âge, avant, en tout cas, le cinquième siècle, et les siècles suivants, que la chose a pris une allure très très nette et très très ferme, a commencé à se codifier. Quels ont été les facteurs qui ont joué et qui peuvent pour nous être fort instructifs, car aujourd'hui des situations plus ou moins analogues peuvent encore se produire entre l'Église évangélique par exemple. Du point de vue de la conscience claire des protagonistes historiques, des hommes des églises de cette époque, je crois que le fait principal a été le prestige apostolique. C'est à cela que l'on fait référence quand on parle de l'autorité qui s'attache à l'Église de Rome. L'Église de Rome était la seule en Occident qui ait pu se prévaloir d'avoir eu des apôtres pour y exercer leur ministère. Et non seulement l'Église de Rome pouvait se prévaloir du prestige d'un apôtre, mais de deux, et des deux principaux. Pierre, le prince des apôtres, et Paul, l'apôtre par excellence. Tous les deux étaient venus à Rome, avaient fait bénéficier l'Église de Rome de leur ministère. Tous les deux y avaient trouvé le martyr, ce qui donnait donc un prestige très considérable à cette Église de Rome. C'était la psychologie des chrétiens de l'époque. L'Église qui avait eu un apôtre en conservait comme une sorte de crédit supplémentaire. Je crois qu'on ne peut pas nier que c'était la pensée dans l'esprit des premiers chrétiens, plutôt des chrétiens de ces siècles-là, qui sont des premiers siècles, lorsqu'ils ont donné particulièrement d'importance à la vie de Rome. Je pense en second lieu que l'historien qui se veut plus objectif, qui prend du recul, l'historien lui attribuera la plus grande part au prestige de la capitale, à l'avantage politique de la ville de Rome. C'est certainement pas par hasard si c'est l'église de la cité qui gouvernait le monde qui est devenue peu à peu l'église qui gouvernait les autres églises. C'est par une sorte de transfert qui s'est accentué au fil des ans. Lorsque Constantinople a détrôné Rome au plan politique, est devenue la nouvelle Rome après Constantin, eh bien tout naturellement beaucoup de gens ont voulu attribuer à Constantinople la même autorité spirituelle dans l'Église que Rome avait eu autrefois. Le concile de Nicée, même dans l'un de ses canons, l'a dit expressément, que la nouvelle Rome devait avoir autant de poids, l'Église de la nouvelle Rome, c'est-à-dire Constantinople, le siège épiscopal, le pape à ce moment-là, nous étions au 5e siècle, et l'évêque de Rome était un très grand bonhomme, Léon le Grand, le pape a refusé ce canon du concile de Nicée. C'est le seul élément du concile qu'il a rejeté, mais il ne voulait pas se laisser marcher sur les pieds. Il avait déjà pris conscience à ce moment-là de l'importance de son pouvoir. Mais incontestablement, la chose à jouer, c'était Rome, moi. Je crois que c'est le deuxième facteur qui a pesé d'un grand poids, et on peut bien sûr y associer des considérations toutes pratiques. C'était une église nombreuse, c'est une église qui recevait des tas et des tas de visiteurs, des gens de tout le bassin méditerranéen, de tout l'Empire, faisaient des passages à Rome. C'était évidemment souvent des gens qui avaient de l'influence, c'était déjà des notables qui venaient à Rome, qui en repartaient. Revenir de Rome pour un fonctionnaire, c'était avoir un certain pouvoir. Et de ce fait, il y avait un rayonnement de l'Église de Rome, de ses options en matière de doctrine, par exemple, qui était inéluctable. Je pense que les églises parisiennes aujourd'hui, dans le protestantisme français, ou même pour toute la francophonie, bénéficient aussi, beaucoup moins moindre degré, hein, mais de quelque chose de ce genre. Je crois que notre Église n'aurait pas le rayonnement qu'elle est si elle était établie à Trifouiller-les-Oies. Bon, il n'y a pas de doute que le fait qu'il y nous ayons des visiteurs presque tous les dimanches, de presque tous les continents, donne à la prédication qui est apportée au tabernacle un retentissement qu'elle n'aurait pas autrement. Voilà pour le deuxième grand facteur. Le troisième facteur a été le facteur financier. Dès le début du deuxième siècle, l'Église de Rome a été célébrée comme un exemple de charité, comme particulièrement remarquable dans l'organisation des secours à des églises, là encore du monde connu tout entier. Il y a eu sans doute plusieurs raisons qui l'ont conduit à avoir ce rôle. D'abord, il y avait des disponibilités financières. C'était une église sans doute plus riche puisque c'était la capitale. Il y avait le sens romain de l'organisation. En Orient, on était beaucoup plus pagaille, mais les Romains s'y entendaient. Il y avait une administration vraiment très efficace à cette église de Rome. Et puis, il y a eu, je crois, une vraie conscience de l'importance de ce ministère. Dans le sens des secours, de l'activité caritative, l'Église de Rome envoyait des subventions, des aides financières aux églises en détresse, ou parfois certains individus, un évêque qui avait été malmené ou expulsé, était pris en charge. Rome envoyait de très nombreux secours. Or, il arrive toujours, malgré tout, que celui qui paie commande au moins un petit peu. Même quand on fait attention qu'il n'en soit pas trop. Ainsi, une influence de caractère doctrinal accompagne facilement un déséquilibre de ce genre économique. Alors, je crois que ça a vraiment joué un rôle important. Et puis, le quatrième grand facteur a été la qualité à la fois politique au sens le plus noble du terme et doctrinale des chefs de l'Église de Rome. Donc, si vous voulez, des papes, puisqu'on les appelle aujourd'hui comme ça. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu sur le siège de Rome des hommes de grande valeur pendant ces premiers siècles. Personnalité parfois un peu autoritaire, mais efficace. Et sage. Faisant de bons choix en matière doctrinale. L'Église de Rome s'est laissée beaucoup moins entraînée par les diverses hérésies que bien des secteurs de la chrétienté d'alors. Alors peu à peu, ça a contribué au prestige de Rome. Ça a donné l'impression que, oui, à Rome, on savait ce qu'on croyait, quoi. Et du coup, la décision romaine a pris peu à peu de plus en plus de poids. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, il y a eu des réactions, il y a quand même eu des papes un peu trop autoritaires, je ne sais plus si je vous l'ai dit la dernière fois, mais autant de Saint-Irénée, donc Saint-Irénée qui avait exalté le prestige de l'Église de Rome, lui qui était évêque de Lyon. Mais il y a quand même eu une démarche de la part de Saint-Irénée, reprenant très courtoisement et fraternellement, mais reprenant quand même le pape Victor. Le pape Victor était sans doute... un homme un peu trop sûr de son affaire, dans une controverse sur la date de la Pâque avec les gens d'Orient, il s'était montré beaucoup trop carré, intolérant, et Saint-Irénée lui en a fait le reproche doucement, mais quand même, et en fait le pape Victor a quand même accepté de mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Mais c'est, voilà la preuve que Saint-Irénée ne jugeait pas nécessaire de s'aplatir purement et simplement devant un évêque qu'il ne considère pas comme le pasteur de l'Église universelle, souverain pontife, dont toutes les paroles devraient être alors acceptées en s'écrasant. C'est pas ça du tout. Au milieu du IIIe siècle, il y a eu une controverse très très âpre entre Saint-Cyprien, l'évêque de Carthage, qui était un homme au sang vif, un prince de l'Église, remarquable, et puis le pape. Cyprien était plus strict. Justement, les évêques de Rome ont eu la sagesse de n'être pas des fanatiques de la pureté, tout en tenant les choses bien en main. Ils ont adopté des attitudes modérées, très souvent. Mais Cyprien ne voulait pas admettre la validité du baptême des hérétiques. Et il voulait donc rebaptiser les hérétiques revenant dans le giron de l'Église. Mais le pape s'est opposé à lui, en disant que le baptême était à ce moment-là valide. Et c'est finalement une controverse assez âpre qui a éclaté. Bon, le pape est mort sur ces entrefaites, son successeur était diplomate, et finalement ça s'est à peu près arrangé. Mais il est très très clair que Cyprien ne considérait pas que le pape est un pouvoir qu'il élève au-dessus des autres évêques. Il considérait que la promesse « tu es Pierre » de Matthieu 16 s'appliquait à tout le collège des évêques, tous les évêques successeurs des apôtres. Alors le pape, oui, peut-être premier entre ses pairs, possédant un privilège d'honneur, une préséance, mais rien de plus.
S'il vous plaît, Jean, j'ai lu, je crois, dans l'institution chrétienne que le titre de pape était accordé à beaucoup d'évêques.
Oui, oui, alors c'est...
Celui de Rome, celui de Carthage et d'autres.
Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Et oui, le mot pape, c'est simplement papa, hein. C'est père. C'est le mot père, et il semble que dans les premiers siècles, celui de Rome l'ait porté, mais beaucoup, beaucoup d'autres aussi. Et c'est peu à peu, mais tout à fait à la fin de l'Antiquité, qu'il est devenu le titre réservé de l'évêque de Rome.
Question un peu marginale. Est-ce que cet homme a été marié ?
Je crois que le célibat a assez vite conquis pas mal d'adeptes, et il m'est difficile de répondre à partir de quel moment les évêques de Rome en particulier ont cessé de se marier. Il y a une différence entre l'Orient et l'Occident, c'est une différence qui s'est creusée. En Orient, on a continué de se marier très très régulièrement sur le siège épiscopal, mais en Occident, l'éloge de la virginité a été tel que les clercs ont très vite abandonné le mariage. Ça n'a pas été une loi imposée, mais ça a été une coutume qui s'est répandue. Mais alors à partir de quand, malheureusement, et je ne peux pas vous en donner...
Est-ce que certains ne savent pas qu'on était mariés?
Je pense au début, oui, qu'au début, au tout début. Mais après ça, je ne sais pas à partir de quand ils ne l'ont plus été. J'ai un petit livre sur le célibat ecclésiastique, mais je ne me rappelle plus maintenant à partir de quand. Une des causes de l'extension du célibat, outre l'idéologie de la supériorité de l'état de virginité, une des causes, ça a été un élément repris de l'Ancien Testament, en quelque sorte, l'idée d'une impureté rituelle pour un prêtre qui aurait eu des relations sexuelles, même tout à fait légitimes, avec sa femme. Dans l'Ancien Testament, on trouve cet élément. Pour certains devoirs rituels, en tout cas, l'abstinence était commandée dans la période juste antécédente. Alors, quand la célébration de la scène a été comprise de façon sacrificielle, et ça, on voit ça se développer dès le IIIe siècle, et un Cyprien, par exemple, nettement présente la scène comme un sacrifice. Donc, quand le prêtre a été conçu oui, comme un sacrificateur, et que la célébration eucharistique est devenue quotidienne, alors l'état sacerdotal est devenu presque incompatible avec celui du mariage. Ça, c'est un élément que je me rappelle de ce livre que j'ai chez moi. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre de façon précise à votre question. Le pouvoir de Rome, c'est peu à peu affermi, selon les lignes que je viens de tracer et par l'action des facteurs que nous venons de voir. Mais il n'y a pas eu que cette évolution pour marquer la genèse de ce que nous appelons catholicisme. Dans les derniers siècles de l'Antiquité, de l'âge patristique pour l'Église, je pense qu'on assiste à la constitution progressive de la, du système catholique coordonnant la tradition de l'Église et son magistère à l'autorité des Écritures, de telle sorte que l'autorité doctrinale devient en pratique celle de l'Écriture lue par l'Église, commentée et complétée par l'Église. Alors il faut maintenant que je vous présente un certain nombre de précisions à ce propos. J'ai apporté avec moi un certain nombre d'ouvrages, mais certains concernent la période ultérieure, si nous avons le temps de l'aborder. Du point de vue le plus extérieur, le superficiel, ce que les derniers siècles de l'Antiquité apportent, avec la conversion de Constantin, la légitimation d'abord du christianisme, et puis, à la fin, par l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, son imposition comme seule religion licite, la religion de l'État, ce qu'apporte cette dernière période, c'est d'une part l'interférence du pouvoir impérial, qui va se mêler énormément de théologie. L'empereur se considérera comme un évêque du dehors, et parfois imposera sa volonté même au pape. Il y a au moins un pape qui est tombé dans l'hérésie sur un point de christologie, le pape Honorius, et cela parce que il n'a pas su résister à la pression de l'empereur. Il s'agit d'une lutte christologique assez tardive, vous voyez, j'anticipe par cet exemple sur le déroulement de ce que je dois vous présenter, mais cet empereur a poussé la thèse dite monothélite, selon laquelle il n'y aurait eu qu'une volonté dans le Christ. En disant, deux natures, d'accord, mais pas deux volontés. Alors, la chose a été plus tard condamnée comme hérétique, la volonté fait partie de la nature. Et si on dit une seule volonté, on commence déjà confondre les deux natures. Mais l'empereur tenait à son idée, et le pape Honorius n'a pas osé lui résister. Et il a fallu qu'un pape ultérieur condamne les vues de son prédécesseur. Intervention du pouvoir impérial et ce qui se combine d'ailleurs, rassemblement fréquent de conciles, de synodes régionaux ou écuméniques, c'est-à-dire de toute la terre habitée, de l'ensemble de l'Église écuménique, dans le langage ancien, c'est un mot de référence géographique. Ça signifie au fond un concile général. Toutes les églises sont représentées. Ça ne signifie pas du tout ce que, pour aujourd'hui, le mot suggère. Ça n'implique pas la tendance à unifier des confessions différentes, par exemple, pas du tout. C'est l'ensemble de la terre habitée plutôt qu'une seule région qui est en cause, ou une seule province. Il y a des conciles provinciaux, des conciles nationaux éventuellement, et puis des conciles écuméniques. Alors, avec la légitimation du christianisme, il devient matériellement possible de réunir de grandes assemblées d'évêques. Le premier très grand concile a été réuni justement par Constantin à Nicée pour régler la plus âpre et la plus importante de toutes les controverses christologiques, celle qui concernait la divinité de Jésus-Christ. Les conciles vont déployer une autorité doctrinale importante. Les grandes controverses de l'époque vont se régler à l'aide de conciles. Alors les conciles régionaux vont parfois émettre des avis contradictoires. L'un dira ceci, l'autre dira cela, condamnera les vues d'un théologien que l'autre adoptera. Même pour les conciles généraux, écuméniques, il y aura des bavures. Au Ve siècle, il y a un concile qui se prétendait écuménique, qui s'y réunissent et qu'on a dû stigmatiser sous le titre de brigandage d'Éphèse, le concile à Éphèse, le pape, devant le rapport qu'on lui a fait sur les irrégularités monstrueuses de procédure, vous voyez, a stigmatisé cette réunion comme un brigandage, et en fait le pouvoir impérial a adopté le point de vue du pape, ce qui a fait que ce concile a été traité comme nul et non avenu, vous voyez, et que un autre concile ensuite a pu se tenir vraiment représentatif, mais oui, il y a eu bien sûr des tiraillements, dans les derniers siècles de l'Antiquité, je pense qu'on peut dire que c'est la tenue de concile, de synode, qui a représenté l'exercice principal de l'autorité doctrinale. Que fallait-il croire ? Ce que les conciles avaient décidé. C'est la foi de Nicée que saint Athanase, saint Basile le Grand, saint Grégoire de Nice, saint Grégoire de Nazian sont défendus. C'est très significatif. On disait la foi de Nicée. Parce que dans ce concile de Nicée, la vérité avait été définie contre l'hérésie. Il ne suffisait plus d'en appeler à l'autorité du Nouveau Testament et de dire foi apostolique. Bien sûr, on considérait que la foi de Nicée, c'était la foi apostolique. Hein. Mais il ne suffisait plus de dire la foi apostolique parce que les adversaires étaient convaincus eux aussi d'être héritiers des apôtres et se référaient au même canon des Écritures. Alors, les conciles constituaient la cour d'appel. Avec les décisions des conciles, aussi les avis des grands docteurs. Et l'idée d'une tradition aidant à lire l'Écriture a fait des progrès indubitables à cette époque-là. On a noté que la tradition est conçue d'abord comme une aide exégétique, c'est-à-dire une aide pour l'interprétation de la Bible. Elle n'est pas d'abord pensée comme une tradition dogmatique, bien que les décisions des conciles, elles, soient plutôt de caractère dogmatique. Mais quand on pense tradition, la tradition de l'Église, la tradition de nos pères, la tradition des grands serviteurs de Dieu avant nous, c'est plutôt comme une aide d'abord à la lecture de la Bible qu'on s'y réfère. À la même époque, d'ailleurs, la liste des livres canoniques pour le Nouveau Testament est parfaitement fixée. Il y avait eu des débats encore pour quelques ouvrages à la périphérie, en quelque sorte, du canon du Nouveau Testament, mais vers la fin du IVe siècle, la liste qui est maintenant admise par tous pour le Nouveau Testament est reconnue très largement. Et en 367, Athanase en Égypte produit une liste. Peu à peu, tout le monde se rallie. Il y a un concile régional à Carthage au début du 5e siècle, donc quelques dizaines d'années après, qui ratifie cette même liste. Ce n'est pas une décision de l'évêque de Rome. Ce n'est pas même un concile œcuménique qui le fait, mais tout le monde finalement est d'accord. Il y a un alourdissement des structures d'autorité avec les conciles qui jouent un rôle important, sous la surveillance du pouvoir politique, qui se veut chrétien. Mais ça reste très polycentrique. L'évêque de Rome accroît peu à peu son autorité. Vers la fin de la période, commence à s'attribuer à lui tout seul le bénéfice de Matthieu XVI, titulé Pierre. Mais ça se fait en douceur. Ce n'est pas du tout un régime monarchique dans l'Église à ce moment-là. L'évêque de Rome apparaît comme le patriarche d'Occident, comme on reconnaît des patriarches en Orient, patriarche de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, mais ce n'est pas le chef de toute l'Église. Certains des docteurs les plus remarquables de l'époque semblent admettre en même temps qu'ils révèrent la tradition exégétique de leurs prédécesseurs, qu'il y a certains éléments qui ont pu être transmis oralement ou sans être consigné dans l'écriture de l'enseignement des apôtres. Basile le Grand, au IVe siècle, un très, très grand évêque en Orient, déclare qu'il y a deux sources de doctrine, la deuxième étant secrète. Il y a la source biblique, mais il y aurait quand même une autre source. Son contemporain et collègue, Grégoire de Nazianze, présente les choses un peu différemment en disant que le Saint-Esprit a révélé à l'Église des choses que le Fils n'a pas révélées aux apôtres. L'idée donc d'une révélation qui se poursuive d'une certaine façon après le Nouveau Testament, qui s'enrichisse après le Nouveau Testament, semble aussi apparaître chez ces hommes. Qu'est-ce qui les conduit à parler de cette façon? Je suppose, là c'est une simple supposition, je n'ai pas fait le travail ou eu les lectures qui me permettraient d'être plus affirmatif, mais je suppose que c'est la nécessité de justifier bien des pratiques, bien des thèmes au moins, plus ou moins doctrinaux, qui sont devenus part du christianisme d'un peu tout le monde à leur époque. Ils se rendent bien compte, parce que ce sont des gens très intelligents, qu'ils ne peuvent pas le fonder sur le Nouveau Testament. Ils se rendent bien compte que ce n'est pas une affaire simplement d'interprétation du Nouveau Testament. Il s'agit de choses en plus, telle façon de faire que l'on pratique, il y a des tas de rites qui se sont surajoutés. Alors, s'ils ne veulent pas admettre que ces choses sont sans autorité, ils sont obligés d'essayer de les rattacher quand même de quelque façon aux apôtres, ou alors de conférer à l'Église un pouvoir de révélation supplémentaire.
Concrètement, par exemple, quoi?
Nous allons voir un point très précis, juste chez l'auteur que je veux aborder maintenant, chez Augustin. Mais enfin, avant de venir à Augustin, où le point précis en cause, c'est le baptême c'est le baptême des hérétiques, je crois. Des hérétiques. C'est pas le baptême des enfants, mais qu'il soit aussi parfois question du baptême des enfants. Il s'agit de cérémonies comme le cierge pascal, il s'agit du signe de croix, il s'agit de choses de ce genre qui prennent une importance considérable pour la piété des gens, et puis dont on ne voit pas la moindre trace dans le Nouveau Testament. Alors, ces hommes qui veulent bien tenir les choses en main, qui accordent de l'autorité à ces pratiques, essayent de dire, bon, eh bien, le Saint-Esprit l'a révélé à l'Église. Et il y a une sorte de révérence pour l'Église comme telle, l'Église de plus en plus mère des fidèles, qui devient habituelle dans l'esprit des gens de l'époque. Alors, Saint-Augustin vient après. Des hommes comme Basile et Grégoire, dont je viens de parler un peu après, mais ils dominent tout l'Occident d'une supériorité de génie écrasante. Et même en Orient, son influence s'est fait sentir. Alors il est intéressant pour nous de savoir quelle a été la position d'Augustin. Augustin, on a pu le présenter comme le père de l'Église romaine et le père de la Réforme à la fois, et sur le point qui nous intéresse, je crois que nous pouvons nous arrêter quelques instants à la position d'Augustin. Alors, les catholiques, comme les protestants, le réclament comme leur allié. Et effectivement, il y a des déclarations qui vont un peu dans les deux sens, dans les nombreux ouvrages de saint Augustin. S'est-il contredit? Sans doute pas non plus. Il y a une façon de comprendre qui permet probablement de concilier les déclarations diverses que saint Augustin a produites, mais dont les directions, surtout si on voit les choses avec le recul d'un millénaire et demi, dont les directions paraissent quand même divergentes. Le meilleur traitement que j'ai vu de ce point, de l'ensemble de ce sujet, c'est le traitement du théologien Warfield, le grand théologien évangélique réformé du début du siècle à Princeton. Il fait une analyse extrêmement fine de la doctrine de la connaissance d'Augustin, y compris la doctrine de l'autorité. Et Warfield me semble très bien prendre ses distances aussi bien de la vieille apologétique protestante, qui a un peu trop tiré Augustin de son côté, qu'il sait quand même montrer que les catholiques exagèrent de leur côté en attribuant aux paroles d'Augustin qu'il sélectionne toute la force de la position catholique ultérieure. Alors ce qui est tout à fait sûr, vraiment on peut dire qu'il y a des textes parfaitement nets chez Augustin. C'est d'abord qu'Augustin met les Écritures au-dessus de tout, leur reconnaît une autorité infaillible, il répète avec beaucoup de netteté qu'il n'est pas question de leur attribuer une seule erreur. C'est dans son épître 82, écrite à Saint Jérôme, qu'il s'explique sur ce point avec des formules très très détaillées, sans la moindre hésitation. Il explique exactement ce qu'il fait s'il lui paraît qu'il y a une erreur dans le texte, dans le manuscrit qu'il a sous les yeux. Eh bien, il dit, il y a plusieurs possibilités. Ou bien, je peux penser que c'est mon manuscrit qui a été recopié avec une faute, que c'est le copiste qui s'est trompé. Ou bien, je peux penser que c'est la traduction, il disait en général la traduction, qui est fautive. Ou bien, je peux penser que je ne comprends pas. Pas d'autre possibilité. Absolument exclu l'idée qu'il y ait une erreur. Il est parfaitement net sur ce point. Il est également très net sur la différence d'autorité entre les écritures canoniques, et les autres écrits qui ont été ensuite produits dans l'Église, pour lesquels il a du respect, qu'il utilise, mais qui n'ont pas le même privilège d'infaillibilité. Il dit, j'ai appris à ne donner pleine confiance qu'aux écritures canoniques. Là, il fait nettement la différence. Il s'est posé le problème en termes clairs, et il répond. D'après les citations que fait Warfield, il y a même un passage où il dit clairement que les décisions des conciles sont réformables. Donc les conciles ne sont pas considérés par lui comme infaillibles. Ils peuvent se tromper, même si Augustin, en général, leur accorde le plus grand poids. Il écrit que les conciles que l'on tient dans les diverses régions et provinces doivent à coup sûr céder à l'autorité des conciles plénier qui sont assemblés du monde chrétien tout entier, les conciles écuméniques. Et même les conciles pléniers antérieurs, les plus anciens, doivent eux-mêmes être corrigés par les conciles ultérieurs. Donc, il admet que des conciles puissent errer, puisqu'ils peuvent être corrigés par des conciles ultérieurs. Donc, il est extrêmement net que saint Augustin fait une différence entre l'autorité des Écritures, qui est vraiment le fondement de toute certitude chrétienne, l'autorité doctrinale, et tout le reste. Mais il est également certain que saint Augustin exalte l'Église non seulement comme témoin de la vérité, véhicule de la tradition apostolique, c'est-à-dire des Écritures. Ça, tout le monde est obligé de reconnaître, tout le monde l'a bien vu. Mais qu'il la traite, selon l'expression de Warfield, comme la médiatrice de la vérité. Elle est aussi médiatrice du salut par ses sacrements à bien des égards chez Augustin, mais médiatrice de la connaissance révélée de Dieu. Ce qui implique davantage que la simple fonction de témoignage. Ce n'est pas seulement que l'Église, historiquement, a recueilli les Écritures et les a transmises de génération en génération, donc nous lui devions en pratique notre accès à la seule vérité des Écritures qui nous sauve. Il y a plus que ça, et ça les protestants ne l'ont pas toujours vu, n'ont pas toujours voulu le voir chez saint Augustin, mais Warfield le reconnaît clairement. Augustin traite l'Église institution comme l'institution du salut, notre mère, à l'école de laquelle nous devons nous mettre, et qui a une fonction de médiatrice dans la communication de la vérité. Alors elle se sert de l'Écriture, bien sûr, pour cela. Et en un sens, l'autorité de l'Écriture lui demeure supérieure. Les gens qui sont dans l'Église sont susceptibles de défaillance. Mais il reste que chaque chrétien individuel doit se rapporter au jugement de l'Église s'il veut lire justement l'Écriture. Saint Augustin, polémiquant avec des adversaires, et en particulier dans son traité sur le baptême, devant affronter ceux qui se raccrochaient à la vieille opinion de Saint Cyprien mentionnée tout à l'heure, en appelle à l'autorité de l'Église. Bien sûr, il reconnaît que le Nouveau Testament ne dit pas que le baptême des hérétiques, administré par les hérétiques, soit valide. Il ne peut pas prouver ça par l'Écriture elle-même. Eh bien, il se rapporte alors à l'autorité de l'Église. Pour bien comprendre ce qu'il en est en général du baptême, il jugerait intolérable qu'un individu se dresse là contre le sentiment de toute l'Église. Et il dit carrément qu'il y a des choses dans l'Église du moment que c'est toute l'Église, qui sont admises et qui doivent être admises puisqu'elles sont acceptées, même si elles ne sont pas clairement fondées dans les Écritures.
On doit comprendre le mot hérétique dans un contexte romain.
Sans doute, bien sûr, puisque nous sommes dans une situation, disons, de catholicisme en Genèse, et donc dans un contexte au moins de catholicisme. Mais je dirais que sur ce point précis, nous n'avons pas à donner nécessairement un sens très très différent. Il s'agit de la déviation doctrinale, si vous voulez. Et en général, la plupart des adversaires de saint Augustin seraient nos adversaires aussi, et peut-être à plus forte raison. C'était des gens qui s'écartaient, si lui s'est écarté de la droite ligne sur quelques points, qui s'en écartaient bien davantage que lui. Mais dans sa controverse, il se rend compte parfois qu'il ne peut pas tout prouver par l'Écriture, et alors il se rapporte à l'autorité de l'Église. Il dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas trouvées, qui ne se trouvent pas dans les lettres des apôtres, et pas non plus dans les conciles de leurs successeurs, mais qui, parce qu'elles ont été préservées dans l'Église universelle, sont estimées avoir été transmises et approuvées par les apôtres. C'est cette idée de choses qui viennent des apôtres, mais oralement ou en pratique, disons, par une sorte de second canal à côté de l'Écriture. Alors les Écritures sont au-dessus. Elles détiennent une autorité absolument infaillible, mais malgré tout, saint Augustin n'est pas prêt à critiquer par seule autorité scripturaire, toutes ces additions. Non, au contraire, ces additions, il est tout prêt à dire, si c'est toute l'Église qui les a admises depuis un bon bout de temps, ça doit venir des apôtres. Et celui qui refuserait de penser de cette sorte, alors il le considérerait comme un individualiste dangereux, comme un homme qui ne sait pas cultiver l'humilité chrétienne, parce que l'Église est la mère des fidèles, elle est la médiatrice de la vérité dans le plan de Dieu.
Alors, il aurait désapprouvé la réforme.
Sans doute au plan formel, Augustin n'aurait pas pu, à moins qu'il ait été lui-même saisi par les enjeux, le message, il n'aurait pas pu approuver l'idée que, avec la seule nécessité de sa conscience, Luther se dresse contre le jugement de toute la hiérarchie en disant « je ne peux autrement, je me tiens ici, je me tiens ici et je ne peux autrement, ma conscience est liée. » Ça, non, ça ne correspond pas à l'approche des choses que l'on trouve chez Augustin, c'est sûr. Et il y a un texte qui est très souvent cité par les catholiques, qui doit se comprendre à cette lumière, que les réformateurs ont essayé de dissoudre par leurs explications, mais sans véritable succès. Dans son épître fondamentale contre les manichéens, saint Augustin déclare « Je ne croirai pas l'évangile si l'autorité de l'Église ne m'y poussait. » Il a écrit ça, il a écrit. Alors les protestants, qui sentent présenter Augustin comme infaillible, lui donnaient beaucoup d'autorité parce qu'ils trouvaient en lui beaucoup de choses à lancer contre le système du Moyen-Âge, le système de la basse scolastique. Et, les réformateurs ont essayé d'expliquer cela dans un sens seulement biographique. Je ne croirais pas, ou je n'aurais pas cru, ont-ils essayé de dire, mais c'est une traduction qui n'est pas vraiment grammaticale. Je n'aurais pas cru, voir Augustin, s'il n'y avait pas eu de cette circonstance que l'Église m'y pousse. Voyez. Ils ont essayé de réduire cela à une affaire de circonstance. Mais ça ne joue pas. C'est dans une controverse serrée avec les manichéens. Il s'agit d'argumentation. Il ne s'agit pas du tout de souvenirs personnels de la part de saint Augustin. Warfield le montre bien. Certains ont essayé quand même de donner un peu plus de poids, mais de présenter le rôle de l'Église comme uniquement le rôle de témoin, de transmetteur de la révélation. En disant, bien oui, concrètement, c'est par l'Église que j'ai eu des écritures, que l'écriture m'a été mise entre les mains. Donc je n'aurais pas cru, je ne croirais pas, s'il n'y avait pas l'Église, je n'aurais pas accès. Mais en fait, Augustin veut dire davantage encore que ça. Il ne veut pas dire, alors, là que les catholiques de leur côté abusent, il ne veut pas dire que pour Augustin, il y a une hiérarchie des autorités et que l'autorité de l'Église est supérieure à l'autorité des Écritures. Ça aussi, Warfield le montre très bien, et dans l'histoire des dogmes de Tixeron, donc catholique, que j'ai là, je crois vraiment que je peux accuser Tixeron de donner vraiment des coups de pouce à cet endroit tout à fait inadmissible. On ne trouve pas de raisonnement où formellement Augustin situe l'autorité de l'Église au-dessus de l'autorité des Écritures. C'est tout le contraire, de manière constante. Et les éléments que je vous ai cités tout à l'heure à propos des conciles même, ces éléments sont tout à fait probants. Mais l'Église a beaucoup plus de poids que n'en aurait un simple témoin, même privilégié. C'est la mère et maîtresse, pour reprendre le titre d'une encyclique de Jean XXIII, Mater et Magistra. C'est dans l'Église que nous sommes, et Augustin n'envisage pas de se servir de l'Écriture pour critiquer l'Église. Critiquer tel ou tel individu qui se dresse avec une doctrine nouvelle, oui, bien sûr. Il va prendre contre lui l'autorité des Écritures, critiquer les mouvements déviants, même peut-être les décisions de tout un concile régional, il le fera. Mais quand c'est toute l'Église universelle, tout en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'une autorité de soi égale à celle de l'Écriture, et infaillible, il ne formalise pas les choses, et pratiquement, il se soumet à l'Église. Il y a un aspect de tactique à son époque, dans les polémiques qu'il menait, bien sûr, je ne pense pas qu'on puisse le nier, puisqu'il avait l'Église de son côté dans ce qu'il croyait biblique, bien sûr, il invoquait cette autorité de l'Église. Mais je crois qu'on ne peut pas tout expliquer par cette seule considération. Augustin avait un sens de l'Église qu'il mettait vraiment au plus grand sommet de gloire, qui... je crois, explique cette espèce d'équivoque quant au rapport d'autorité qui subsiste dans ces déclarations entre les Écritures et puis la tradition de l'Église. Tradition d'ailleurs dont il n'indique pas les critères exacts. En général, il s'y réfère quand c'est universel. Personne ne le discute dans l'Église orthodoxe. Alors là, il pense pouvoir s'appuyer fermement dessus.
Saint Augustin croyait au purgatoire, je crois.
Oui, je crois qu'en général, il a admis beaucoup des éléments qui sont devenus ensuite des traits catholiques typiques. Oui. Augustin, sur le purgatoire, je n'ai pas spécialement étudié sa conception, mais je crois qu'à l'époque, il y avait déjà assez d'idées, c'était beaucoup plus flou par la suite. Et Saint Augustin a accepté les choses qui étaient même du catholicisme vulgaire. Dans le livre d'Henri-Irénée Maroux sur Saint Augustin, cet historien français remarque que Harnack, le protestant libéral, s'est scandalisé du soutien, de l'approbation que Saint Augustin a donné, même à ce que Harnack appelait vulgaire catholicismus, un catholicisme vulgaire, des superstitions que les protestants ne peuvent vraiment pas tolérer. Mais Saint Augustin, lui, a très bien toléré. Ça ne gênait pas, c'est vrai. Il y a cela aussi chez Saint Augustin. Et Wanfield, je crois, montre bien quelle est l'origine dans la pensée d'Augustin, enfin, une origine au moins, de cette espèce d'équivoque. C'est qu'il ne distingue pas nettement entre l'Église comme le corps des prédestinés, des élus, ce que Luther appellera l'Église invisible, et puis l'Église empirique comme institution. Bibliquement, il voit tout ce qui est attribué à l'Église corps du Christ, membre de tous les faites de tous les membres vivants que sont les élus. Et automatiquement, il attribue cela à l'Église des évêques de son temps, dont il est lui-même l'un des évêques, avec ses grands patriarches en Rome, en Occident. Il n'a pas dissocié dans sa pensée. Alors, peu de temps après lui, intervient un autre homme beaucoup moins important dans l'histoire de la théologie. Augustin, c'est le plus grand depuis les apôtres. Mais qui, pour l'histoire de notre sujet, a eu de l'importance aussi. C'est Vincent de Lérins, en Provence. Vincent, qui était donc du monastère de Lérins, L-E-R-I-N-S, qui est mort aux environs de 450, donc qui a écrit très peu après la mort de saint Augustin. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il a écrit en fait pour lutter contre l'influence augustinienne. Le monastère de Lérins était un monastère de tendance semi-pélagienne sur la grande controverse de la prédestination, de la grâce. Il trouvait qu'Augustin, quand même, il avait été trop fort. Alors, il n'osait pas trop le dire, parce qu'il y avait eu des conciles régionaux, pas écuméniques, mais régionaux, qui avaient été considérés comme vraiment de poids, qui avaient condamné Pélage, qui avaient accepté les vues d'Augustin. Mais, dans un livre écrit en 434, Vincent de Lérins essaye de montrer que ne peuvent valoir comme dogme irréformable de l'Église et comme chose à vraiment à croire par tous les fidèles que celles qui ont été crues toujours, partout et par tous dans l'Église. C'est ce qu'on appelle le canon de Lérins. Il pose ce principe, on ne peut pas imposer à toute l'Église des vues nouvelles, comme celle d'Augustin, sous-entendu, avec ses théories extrêmes sur la grâce. On ne peut pas, parce que ça n'a pas été cru, partout, toujours et par tous. Ce qui est la règle pour la foi de l'Église, impérative pour tous, normative, c'est ce qui a été cru toujours, aussi longtemps, aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire, jusqu'aux apôtres, partout, dans toute l'Église, pas une idée seulement régionale, et par tous qui. Ça, c'est un gros problème. Eh bien, en fait, il le précise, les prêtres et les maîtres, le docteur dans l'Église. En fait, c'est la hiérarchie. Et si on voit dans le contexte ce qu'il a en vue plus précisément, ce sont finalement les conciles et les grands docteurs qui sont à peu près en cause derrière ce tous. Oui. Alors cette position est assez intéressante, surtout en rapport avec cette précision sur le tous. Karl Barth, qui fait une très très bonne analyse du texte de Vincent de Lérins dans le fascicule 1, 2, 3 de sa dogmatique, celui que j'ai ici, montre que ce qui est nouveau chez Vincent de Lérins, ce n'est pas l'affirmation de l'antiquité et de l'universalité. En un sens, ça se trouve déjà chez Augustin. C'est vrai que on croyait couramment que la foi de l'Église, à une époque donnée, avait toujours été la même. Mais ce qui est nouveau, c'est ce critère précis. Il s'agit de désigner ceux qui unanimement ont admis cette doctrine, les prêtres et les docteurs, les autorités constituées. C'est leur accord qui devient le critère, la norme pour la vérité doctrinale. Et cette pensée de Vincent de Lérins a été assez vite admise. Le deuxième concile de Constantinople en 553, c'est-à-dire déjà plus d'un siècle après, mais considère que la tradition qu'il faut respecter comprend les décisions des précédents conciles. Le deuxième concile de Nicée, nettement plus tard, lance un anathème contre ceux qui rejettent la tradition de l'Église, qu'elle soit orale ou écrite. Vous voyez le progrès que fait ce thème de la tradition de l'Église, surajouté de fait à l'écriture. On pense toujours qu'ils sont d'accord, forcément, mais surajouté de fait. Et en plus, chez Vincent de Lérins, il y a un élément que je crois fort intéressant, parce qu'il annonce les théologies catholiques les plus modernes. Chez Vincent de Lérins admet l'idée d'un progrès dans l'Église. On y dit, bien sûr, que la vérité demeure la même, un caractère permanent. Mais il la compare avec la croissance organique d'un être vivant, en disant qu'elle s'enrichit, se développe au fil du temps. Idée qui sera une idée très, très populaire parmi les catholiques à partir du XIXe siècle. Et on trouve déjà cela chez Vincent de Lérins, avec le verbe même évoluer, et vous le verrez, cette image de la croissance organique est importante dans son livre donc, de 434, le Communitorium, qui servira ensuite de référence, ce canon de Vincent de Lérins, vraiment respecté dans l'Église. Alors, je compte que la fois prochaine, nous voyons comment ces choses sont demeurées et se sont encore consolidées au cours du Moyen-Âge. Nous ferons un survol assez rapide. Et puis, je pense que nous aurons le temps de voir comment la crise de la réforme alors s'est ouverte. J'utiliserai, entre autres, je vous le signale, ce livre très partial. C'est un catholique qui est plutôt polémiste qu'objectif, mais quand même très intéressant, de Georges Tavard. C'est un théologien américain, Tavard, T-A-V-A-R-D, Écriture ou Église, la crise de la réforme, mais il y a un chapitre sur le Moyen-Âge, sur tout ce qui précède la réforme. Et c'est un ouvrage intéressant, donc certaines citations méritent lecture. Alors,
je voudrais vous poser une question. Oui. Il y a un énorme problème qui est soulevé là.
Vous parliez tout à l'heure du baptême des hérétiques.
Oui, oui.
L'Écriture ne prévoit pas un tel cas.
Mmh, oui.
Mais alors, effectivement, l'Église veut bien prendre position. Imaginons que demain, par exemple, il y ait une persécution en France. Tout peut arriver, vous savez. Mmh. Et que la montée du tabernacle, c'est non plus. Apostasie, on a pas peur. Et après, la barre passerait. Et puis, on voudrait revenir à l'Église. Il faudrait bien prendre une position. Vous, par exemple, quelle position prenez-vous?
Bien sûr. Non, je pense que nous avons des lignes directrices dans l'Écriture elle-même, que nous n'aurions pas à nous référer à aucune tradition ou à aucune autorité propre que détiendrait l'Église par elle-même pour décider là-dessus. Nous aurions bien sûr à décider, mais en tant que nous appliquerions des principes bibliques à la situation. En l'occurrence, par exemple, je dirais que la discipline ecclésiastique d'après le Nouveau Testament a uniquement une destination corrective, elle n'a rien de punitif par exemple, ne saurait avoir la moindre connotation pénale, de telle sorte que dès que quelqu'un revient de son errement, sans repent, il doit être réintégré dans l'Église, sans avoir de peine temporelle à purger, comme c'est devenu la règle dans l'Église. Alors bien sûr, ça heurte, je dirais, le sentiment charnel de justice. Ceux qui ont beaucoup souffert pour confesser le nom de Jésus et qui voient ensuite ceux qui ont apostasié se repentir la persécution passée, disent « c'est pas juste, c'est pas... mais c'est le plus charnel possible ». Dans l'optique du Nouveau Testament, il faut voir que si quelqu'un a confessé le nom de Christ, c'est une grâce qui lui a été faite. Il ne peut pas le prendre autrement s'il a vraiment confessé. Donc il n'a absolument pas à exiger une sorte de sanction pour les autres. C'est vraiment être tout à fait hors de l'esprit du Nouveau Testament et de la discipline ecclésiastique dans le Nouveau Testament. Je comprends très bien comment les croyants qui avaient tenu le coup sous la persécution au 3e ou au 4e siècle en sont arrivés à leur façon de voir, mais je dis c'est misérablement humain. Ce n'est pas biblique. Voilà comment je répondrais, ce qui ne veut pas dire que ce serait facile, hein, mais tout est grâce.
C'est mais ça en dit un peu par des exemples en Afrique du Nord et du Nord, pour l'addition totale, une position totale, il y revient. C'est systématiquement, c'est pas bon, mais bon, bien ça.
Eh oui, je... Alors, évidemment, je dis même l'application de ce principe, qui, je crois, est clair bibliquement, que je viens d'affirmer, ne résout pas tout dans la pratique, parce qu'il y a surtout l'interférence avec les ministères dans l'Église et l'exercice d'une certaine autorité spirituelle au milieu des frères. Il me semble normal, bibliquement, que quelqu'un qui a commis un péché grave et scandaleux puisse en y repentir, soit à la fois réintégré dans la communion de l'Église, sans aucune sanction, mais aussi invité à en rester au rang des brebis qui se font conduire, et à ne pas prétendre, à ce moment-là, conduire les autres, exercer une sorte d'autorité. Il lui convient, il lui sied mieux, disons, de rester à sa place. Il a montré sa fragilité, donc on ne peut pas d'emblée au moins lui confier des choses importantes. Il est normal que s'il avait un ministère de gouvernement, il cesse d'en être détenteur. Ça me paraît assez normal. Mais vous voyez, dans la pratique, ça peut poser des problèmes, parce que ça peut se lever une sorte de sanction quand même. Jusqu'à quand faut-il attendre?
Oui, monsieur. Le problème en Côte d'Ivoire actuellement, le pasteur qui est sous discipline et qui sont réintégrés. Certains sont contestés, là,
je parle. Oui.
Et je trouve ça assez scandaleux, personnellement.
Oui,
c'est pour ça que je ne comprends pas votre point de vue, en disant qu'il ne faut pas leur donner l'autorité.
Pas d'emblée, je trouve quand même qu'il est normal, parce que lorsqu'on choisit quelqu'un pour lui confier une tâche d'autorité, comme un Timothée 3 le dit clairement, on le sélectionne en fonction du bon témoignage qu'il a rendu, des qualités de stabilité qu'il a montrées, etc. Alors si quelqu'un qui était en office montre qu'il n'a pas ces qualités, en tout cas au degré qu'on avait espéré, qui a une grosse faille chez lui, il me semble que le remettre aussitôt dans cet office, c'est aller contre la logique d'un Timothée 3, vous voyez ? Ah, je pense qu'après un temps, c'est possible. Mais il y a certains péchés pour lesquels, je dirais, ça, c'est presque la vie entière qui me semble marquée. Franchement, je dirais que un pasteur qui serait surpris à pratiquer l'homosexualité, ça existe, hein, c'est arrivé. Bon. Je crois que... Et qui s'en repentirait, ensuite. Moi, je ne verrais pas que je puisse recommander lui confier à nouveau une charge pastorale. Même avec un homme tout à fait repentant. Il me semble que ça montre une telle fragilité, le danger est tel, et puis aussi une affaire de témoignage extérieur. Bon, voilà ce qui serait ma réaction.
Vous faites une différence entre l'homosexualité et l'adultère,
par exemple ? Je pense, oui. Je pense. Parce que, justement, sous l'angle de la fragilité, et aussi du discrédit, il n'y a pas ce cas précis dans l'Évangile, mais il me semble que l'attitude à l'égard de l'homosexualité est telle que c'est considéré comme une abomination encore au-delà du péché d'adultère qui est grave.
Si on peut hiérarchiser
un peu. Oui, mais je pense qu'on doit hiérarchiser aussi, au moins quant au caractère extérieur et grossier, qui seul peut intéresser la discipline ecclésiastique.
On entend ça, parce que moi ça m'arrive, vous savez, ça m'arrive d'être en contact, surtout dans la police, on voit tous les personnes qui
Mais bien sûr.
J'ai eu des réflexions directes, au sujet d'où c'est pas.
Eh oui.
On se voit à la position ferme, je le sais ferme, mais il y a des questions subtiles, justement.
Eh oui.
Bon, je me suis dit des choses claires, hein. Bon, c'est parce que la presse est la réalité, mais enfin...
Vous s'êtes parpenti que je sache.
Mais non, mais alors lui au contraire, non seulement c'est parpenti, mais il est faux docteur, parce qu'il est le propagandiste d'une éthique radicalement pervertie. On pourrait être encore beaucoup plus indulgent pour quelqu'un qui ne serait pas repenti, mais qui pratiquerait honteusement comme quelque chose qui serait plus fort que lui à son avis. Ce ne serait pas une excuse suffisante, mais on pourrait avoir beaucoup plus, je dirais, de compassion. Mais lorsqu'il s'agit là d'un faux docteur, moi si je coupe les ponts absolument avec Doucet, c'est parce qu'en plus, c'est pas seulement parce qu'il est un homosexuel, mais qu'il est un apôtre de l'homosexualité prétendument chrétienne. Enfin, c'est ça qui est une abomination suprême. Oui, en plus, oui, il y a un aspect de blasphème, oui. Oui, ils sont prêts à tout salir de la main. Non, c'est... Oui, donc, non, alors là, et j'estimerais qu'un homme comme lui, même s'il venait à se repentir, pourrait difficilement avoir ensuite un ministère. Bon, à moins que Dieu montre de telle façon suffisamment évidente qu'il le veuille. Je dirais, je ne veux pas non plus faire de cette règle de discipline que j'envisagerais une sorte de loi absolue. Dieu est libre même, mais ça m'étonnerait beaucoup que cela puisse arriver. Oui.
À ce niveau-là, s'il y a un repentir, on peut supposer que le Saint-Esprit lui donnerait même un esprit de réserve.
Oui, normalement. Mais il est sûr, parce que nous restons, oui, même dans nos repentirs, il est sûr qu'on voit parfois des gens qui, après s'être repentis, n'ont pas l'humilité qu'on attendrait, et qui se mettent facilement un peu en avant, qui parlent comme s'ils pouvaient être à l'aise, alors qu'ils ont quand même porté atteinte au renom du Seigneur. Alors, vous voyez, ça arrive aussi. Donc, on est...
Je pense
bon que si Dieu permet les chutes dont nous nous repentons, c'est aussi qu'il pense qu'il peut y avoir un effet positif sur nous, de pédagogie, et qui nous fasse comprendre mieux la grâce. Mais quant à un ministère, en tout cas à court terme, je crois qu'on est obligé d'avoir une certaine réserve. Et alors, je le disais pour montrer que l'application du principe, la discipline est seulement corrective, ne résout pas tout en pratique. En pratique, il y a une zone un peu intermédiaire. On aura l'impression que c'est une sanction, c'est pas vraiment une sanction. Mais on aura cette impression-là, si quelqu'un a eu un ministère ou une autorité, puis qu'il ne l'a plus ensuite. Et à mon avis, c'est inévitable. La situation est une situation qui n'est pas idéale. Il ne peut pas y avoir une situation idéale dans ce monde. Et alors, il y a certaines jointures où c'est un peu délicat.